Le Radio.
Le Salon des professionnels de la radio. En direct du Salon Le Radio 2013 avec Maxillaire et Broadcast Associé.
Nous allons parler de radio forcément, comme à chaque fois, de proximité, mais également avec des acteurs qui sont importants dans le milieu des radios B. Nous allons en parler avec Résonance, mais également avec Alouette, avec des invités qui sont avec nous. Monsieur De Villiers, bonjour.
Bonjour.
Franck qui est de Résonance également, qui est avec nous. Bonjour Franck.
Bonjour Mickaël.
Alors justement, la force de la proximité de vos radios, c'est que quelque part vous faites ce que les radios nationales ne peuvent pas faire, grosso modo, c'est que vous parlez aux gens du coin, quoi. Franck.
Exactement. Les radios nationales ne peuvent pas faire cette proximité que nous avons, qui fait la force des indés radios aujourd'hui. Mm-hmm. Et voilà, c'est toute la différence que l'on peut proposer à nos auditeurs.
Voilà, et ça, ils le ressentent. Il y a des retours réguliers. Vous dialoguez avec eux. Comment ça se passe, justement, la relation avec les auditeurs au quotidien ?
Bien, il faut leur demander. D'ailleurs, ils nous répondent chaque année dans les médias locaux.
Ouais.
Apparemment, ça se passe très bien. Ils nous écoutent en priorité par rapport aux radios nationales, même si les radios nationales sont malheureusement devenues depuis 80 beaucoup plus nombreuses que les radios locales dans chacune de nos villes.
Ouais. Alors justement, le cas d'Alouette est un peu particulier parce que vous avez une grande zone de diffusion. En fait, quelle est l'histoire en fait d'Alouette ? Comment en êtes-vous arrivé à avoir cette grande zone de diffusion justement ?
L'histoire d'Alouette était dès le départ régional, puisque notre site de diffusion initial, le Mont des Alouettes, qui donne notre nom de station au départ, un nom improbable, mais qui s'est bien inscrit dans le paysage et dans les cerveaux des auditeurs, est le point le plus élevé aux confins de 4 départements, Vendée, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres et Loire-Atlantique. C'est la raison pour laquelle on a développé dès le départ un concept de radio régionale. On avait appelé ça le fait régional dans la foulée des régions qui ne sont pas si anciennes que ça, les fameuses régions INSEE pour nous, Pays de Loire, Poitou-Charente, Bretagne et Centre.
Et alors vous êtes un cas particulier parce que vous êtes une des rares stations régionales à avoir atteint le point d'audience qui est à, rappelez-moi, 520 autour,
autour de 520. Donc en fait oui, on est même la seule, puisque l'autre qui l'a atteinte après n'est pas une radio régionale pour en parler, c'est une radio multiville, c'est Radio Nova, qui fluctue comme nous entre 0,8 et 1,1 selon ce qu'on appelle pudiquement les intervalles de confiance de médiamétrie.
Alors d'apparaître comme ça dans le classement des radios nationales, entre guillemets, qu'est-ce que ça a provoqué au sein d'Alouette ?
Au-delà d'une certaine fierté de nos équipes, une visibilité nationale. On reste une radio régionale et on a l'intention de le rester, puisque nos conventions avec le CSA nous y obligent, mais on pense aussi qu'il serait dangereux d'abandonner cette proximité avec les auditeurs, car c'est ce qui fait notre discriminant positif par rapport à nos concurrents. On prenait l'exemple tout à l'heure dans un autre débat de l'annonce des contrôles radars, c'est typiquement de façon spectaculaire ce qu'une radio nationale ne peut pas faire. On ne voit pas un animateur d'RTL interrompre le programme pour dire que à Brickbeck,
par exemple,
il y a un contrôle radar à l'entrée du village, etc. Donc nous, on sait le faire. Ça n'est pas ringard quand nous le faisons, puisque les auditeurs connaissent la ville et qu'au contraire, ils nous en sont très reconnaissants.
Ce sont parfois même eux qui passent un coup de fil pour. C'est le cas sur Résonance.
Ce sont
les
meilleurs ambassadeurs aujourd'hui sur les routes de Normandie pour Résonance, en effet, puisque 80% des retours de contrôle de vitesse sont faits par nos auditeurs.
Cette proximité, elle se traduit par l'inforoute, mais aussi par des tas d'autres choses. Il y a aussi la proximité qu'on peut avoir entre un animateur et ses auditeurs, par exemple. C'est important aussi, ça, dans la radio, entre une équipe et...
Complètement. L'animateur peut être à l'autre bout de la France, avec la voice track aujourd'hui, on le voit bien sur de nombreuses radios. L'important, c'est que l'auditeur s'imprègne de la région, et pour cela, voilà, le responsable d'antenne doit inonder cet animateur d'une multitude d'informations pour que l'animateur respire la radio en question et fasse un maximum de proximité. On souhaite systématiquement que lorsque l'animateur fait son speak, il y ait une accroche locale.
Une référence.
Sur un jeu, un gros événement auquel la radio est associé sur un petit clin d'œil sur la météo en citant une ville avec un lieu bien précis. Pas forcément toujours les grosses villes. Hein. Lorsqu'on fait nos bulletins météo à résonance, on ne va pas citer seulement Le Havre, Dieppe, Fécamp. On va aller chercher des petites villes qui vont justement titiller un peu l'auditeur en disant tiens, ils parlent de chez nous et après c'est un bouche à oreille qui va se faire. T'as vu, ils ont parlé de Bolbec aujourd'hui, c'est notre radio, voilà, c'est ça la proximité. Et puis l'auditeur à l'antenne, en rappelant systématiquement d'où il appelle, ça fait le buzz autour d'un tout petit village lorsqu'il y a une personne qui gagne une semaine de vacances en Vendée. Voilà, on envoie nos auditeurs en vacances pour écouter Alouette, ça c'est formidable.
Ah bah, c'est bien. Il y a une collaboration entre deux radios régionales. Vous parlez sur quel type de sujet, par exemple ?
Alors, on va échanger, en effet, lorsqu'on se retrouve sur ce genre de salon. Dis Bertrand, tiens, c'est vrai que tu as quelque chose qui marche très fort en ce moment. Comment ça se passe ? Est-ce que je peux le décliner sauce normande pour également le proposer à nos auditeurs ? Donc, souvent, on est là pour s'échanger des astuces, pour s'échanger des conseils. Et ce qui marche pour une radio marche pour l'autre.
Pour tout dire sur cette question... Avec un peu d'humour, c'est vrai que cette proximité, ces échanges sont nettement favorisés lorsque les zones d'audience potentielles ne sont pas séquentes.
Oui.
Parce que c'est très difficile de parler avec son voisin direct et concurrent de nos petites recettes, de nos petits secrets. Ça se fait à travers le mercato des animateurs qui partent dans une radio voisine en emportant les secrets de celle qu'ils quittent. Mais ça, c'est normal.
Ça, c'est normal. Même s'ils sont tenus une forme de confidentialité, j'imagine, quand même.
Oui, bon, en même temps, c'est pas non plus le Pentagone.
Mais radio... c'est vrai dans les radios nationales aussi. Hein, quand un animateur passe de Fun à Énergie, on imagine forcément qu'il amène une certaine expérience. Et c'est vrai pour les autres métiers aussi.
Voilà, donc c'est pour ça que nos radios doivent réinventer en permanence. D'ailleurs, nous sommes fournisseurs exclusifs la plupart du temps des futures stars du paysage radiophonique français, que ce soit Julien Courbet, Bernard de la Villardière, etc.
Ouais.
Tous ont démarré, ou même Laurent Ruquier, ont démarré dans des radios locales. Nous sommes un peu des centres de formation bénévoles, d'ailleurs, sans droit, après, sans agent ni rien, des radios nationales. Et il est tout à fait normal que... Mais c'est un peu une usine marémotrice aussi, parce qu'on reçoit aussi, parce qu'on est à l'écoute. Et puis les gens ne sont pas soumis non plus à des obligations de type de secret nucléaire. Et donc, à force de se croiser, notamment sur des salons comme celui-ci, qui est remarquable et qui est le meilleur, pour tout dire, on échange un verre à la main et on arrive à améliorer à la fois eux, les grandes radios, leur programme, leur exigence de proximité et nous, professionnalistes.
Ce qu'il y a aujourd'hui dans la région, dans les gens d'aujourd'hui qui font de la radio ou qui débutent dans la génération d'aujourd'hui, la même passion que celle qui pouvait nous animer il y a 10, 15, 20 ans. Est-ce qu'il est encore facile de trouver de jeunes animateurs ou de jeunes journalistes passionnés aujourd'hui ?
Pour Alouette, la réponse est oui. Je vois que Franck domine un peu de la tête.
Beaucoup moins, parce qu'à l'époque, dans une radio locale du début des années 80, on était peut-être 50 bénévoles sur les 50. Voilà, on trouvait au moins une dizaine de passionnés. C'est plus dur aujourd'hui d'accueillir des bénévoles pour développer leur passion, parce qu'on ne va pas leur laisser leur micro comme on pouvait le laisser dans les années 80. Aujourd'hui, on a ce professionnalisme, on n'a pas droit à l'écart. S'il y a un écart, l'auditeur va partir. On ne peut plus se permettre aujourd'hui de lancer des auditeurs, même s'ils sont passionnés, s'ils n'ont pas un certain niveau.
C'est pas comme ça que j'avais compris la question. Effectivement, ça, c'était la radio libre. La radio libre, c'est 80-85, début des réseaux, des networks, interdits à l'époque et autorisés par la loi de 86 a posteriori, puisque Jean-Paul Baudecroux se vantait à l'époque, maintenant il ne le fait plus, d'avoir toujours une loi d'avance. Donc on était dans l'amateurisme, dans le hurrah radiophonique, comme il y a le hurrah football, et effectivement, sur la quantité de gens qui arrivaient avec leur bonne volonté, certains restaient avec du talent. Mais aujourd'hui, j'ai compris votre question comme étant le point de savoir s'il y avait beaucoup de demandes pour travailler en radio. Oui, une demande.
Il y a toujours autant de passionnés.
Voilà, toujours autant de passionnés.
La radio attire énormément, ça reste quelque chose de mystérieux, la radio. Donc on a envie de voir, on a envie de comprendre. C'est la musique, les stars, tout ça attire énormément. Ça attire beaucoup, beaucoup de monde qui sont passionnés, mais est-ce qu'ils auront après, une fois qu'ils seront, pourquoi pas, embauchés en tant que salariés, cette passion que l'on avait dans les années 80, où on arrivait le lundi matin, on quittait le samedi soir, parce qu'il faut aller le dimanche quand même de temps en temps pour récupérer.
Et on venait souvent avec son bac de disques.
Et on venait avec son bac de disques, de maxi vinyle qui était très lourd, qui nous cassait le dos.
Et on calait ses disques soi-même.
Soi-même, en faisant un quart de tour sur la platine.
Parfois à l'oreille.
Parfois à l'oreille. Où voyez-vous vos radios dans 15 ans ?
Pour ma part, pour Alouette au sommet, au sommet, une Alouette n'a de cesse que de voler toujours plus haut.
Ouais.
Et bon, après, il y aura des impondérables, il y a des inconnus. Quelles seront les évolutions technologiques au moment où on se parle? Il y a un colloque certainement très intéressant, mais en langue anglaise, sur les RNT, ce qui est tout un symbole.
J'entends beaucoup dire, moi, sur le salon cette année, que demain, la radio va faire de l'image. De plus en plus. Est-ce que c'est une courroie de développement qui vous intéresse ?
Vous voyez, par exemple, tout l'intérêt de notre entretien là, c'est qu'il n'y a pas d'image.
Ouais.
Et donc, c'est un mystère. Les gens,
ça pourrait tuer la magie de la radio.
Ouais.
Voilà, les gens, d'ailleurs, ne vous imaginent pas tel que vous êtes.
Heureusement.
Un homme magnifique dont le plumage s'accorde parfaitement au ramage. C'est ça, la radio.
Oui, c'est
ça. La radio filmée, si ce n'est pas de la télé, ça devient très ringard. Alors, il peut y avoir des exceptions de podcasts, mais je pense que ça trouvera vite ses limites. En plus, avec la RNT, mais je ne suis pas un technicien, on a peut-être des problèmes de flux et de bandes, et on aura du mal à faire quelque chose de techniquement à la hauteur de tout ce qui est vidéo, qui est sur tous les canaux. Peut-être un jour, sauf sur la radio, ce qui rendra la radio définitivement spécifique.
La RNT, justement, c'est un débat qui agite beaucoup la radio depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il y a certains candidats qui ont été autorisés sur certaines zones. D'autres où des études sont toujours en cours. Il y a des acteurs nationaux et publics notamment qui refusent d'y aller. Quelle est votre position là-dessus aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est viable, cette RNT ?
Alors, on a deux types de positions. Enfin, Franck complétera ma réponse. On a une position de principe qui est de dire la radio numérique, ce serait mieux en RNT parce que la RNT, c'est la gratuité pour l'auditeur et c'est la non-traçabilité. Je cherche le mot, mais la liberté et comment dirais-je, le côté anonyme.
Oui.
C'est vrai que par Internet ou tout autre mode numérique,
on sait qui écoute, on a chacun un numéro IP. Voilà,
on peut aller chercher après le pourchasser pour des raisons commerciales ou autres. Cela dit, la RNT telle que se présente, y compris dans les pays voisins, mais ça c'est un point de vue d'observateur non technicien, n'apporte pas pour l'instant la preuve appliquée au paysage français. C'est ça la difficulté, appliquée au paysage français, où il y a quand même 700 programmes, la preuve de sa faisabilité avec une migration à l'identique de ce paysage extrêmement pluraliste n'est pas apportée à ce jour. Alors, j'ajoute que pour des radios comme les nôtres, je ne sais pas si Franck va confirmer, on aura un problème de modèle économique. D'abord, la double diffusion, qui devra durer très longtemps, puisque les auditeurs ne peuvent en aucun cas, par un législateur, être obligés à changer leur poste en faisant la queue dans les supermarchés. Mmh. Et surtout, notre modèle vit entre 50 et 60 de publicité locale. Et le maillage à venir en émetteur RNT avec des contraintes de multiplexage, de blocs, etc. Pour l'instant, les techniciens n'apportent pas non plus la réponse de la possibilité de continuer à faire vivre le modèle de pub local, voire régional. Donc on est, moi je suis numéro sceptique pour l'instant, ouvert évidemment à tout progrès, mais fermé à toute récession dans le pluralisme et la viabilité économique de nos radios.
Franck ?
Oui, je rejoins tout à fait Bertrand sur ce côté sceptique de la RNT qui fait peur aujourd'hui. Être en FM, en RNT pendant X années, des radios comme Résonance ne pourront pas tenir. Ça va être compliqué économiquement. Il y aura des guerres de multiplex également. Qui va s'installer dans tel multiplex pour pouvoir accéder à une zone départementale, régionale ou locale? Il y a beaucoup trop de flou encore pour le moment. De toute façon, on le voit bien, ceux qui viennent, ceux qui se retirent du projet, qui sont pour, le lendemain, ils sont contre. Ça va être délicat. Et aujourd'hui, en effet, il y a quelques villes qui sont test, mais pour côtoyer beaucoup, beaucoup de monde, je connais personne qui m'a dit « Oui, j'ai écouté la radio sur la RNT ».
Quand on voit que c'est...
Même sur Nantes, je crois qu'il y a...
Il y a eu les tests, mais c'est déjà difficile pour les opérateurs qui existent. Là, on voit qu'il y a de nouveaux opérateurs qui ont été autorisés. Si j'entends bien ce que vous dites, ça va quasiment être impossible pour eux.
Non, mais cette situation est extrêmement paradoxale, surtout avec l'annonce du service public de sa non-volonté de candidater. Les grandes radios, nous sommes adhérents du CIRTI, qui est le syndicat moteur, mais pour des raisons, méta-radiophoniques, c'est-à-dire que le CIRTI, qui est un syndicat de radio indépendante, essaie d'être présent dans le débat, car il est quasiment certain, si le CIRTI n'avait pas été présent dans le débat, les grands réseaux, les grands médias à taille européenne se seraient intéressés à ce type de radio. Je pense que du fait du nombre de radios représentées par le CIRTI et par les radios associatives, ça condamne la migration à l'identique. Et si ça condamne la migration à l'identique, plus 10% à peu près de nouveaux entrants, c'est vrai que ça peut mettre en péril une activité économique et une activité de communication qui par ailleurs est indispensable. Ouais. Donc parfois, moi je reste tout à fait solidaire de mon syndicat en tant qu'observateur et participant à ce débat, parfois le mieux peut être l'ennemi du bien. Le média radio, après un petit fléchissement, est revenu à 82-80% d'audience quotidienne. Il y a 20 ans, il était en difficulté, il était redescendu à 70-73. Ne le fragilisons pas, il y aurait naturellement une baisse de la qualité des programmes s'il y avait une multiplicité des formats. On est en train de le voir à la télévision. Donc le mieux l'ennemi du bien, en plus, accessoirement, pour les radios de proximité, franchement, on ne voit pas comment on ferait cette migration.
Ouais. Je pense que l'FM a encore de belles années devant elle, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas.
Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous voir.
Merci,
et bon salon.